Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi.
C'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La tension monte entre le Pakistan et l'Inde, frontières fermées, expulsion de diplomates, suspension de visa. Nous retrouverons comme Bastin à Bangalore. La guerre ne faiblit pas en Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait 8 morts et plus de 70 blessés à Kiev. Donald Trump s'en prend encore une fois violemment à Volodymyr Zelensky à propos de la Crimée. Pierre-Olivier, dans un instant, nous parlera en détail de ce territoire annexé par la Russie il y a 11 ans. Daniel Valot du Vatican sera avec les fidèles qui rendent un dernier hommage au pape François. Sa dépouille est à la basilique Saint-Pierre où plus de 60 000 personnes sont venues depuis hier. Nous retrouverons Amira Swilem à Jérusalem à l'occasion de la journée de la Shoah en mémoire aux 6 millions de victimes juives des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nouveau rebondissement sur la scène politique sud-coréenne. L'ex-président Moon Jae-in a été inculpé pour corruption au moment où l'ancien président Yoon Seok-yeol est jugé pour insurrection. Avec cette inculpation, deux anciens présidents sud-coréens sont donc à présent simultanément dans le collimateur de la justice. Explication Nicolas Roca.
RFI Midi.
La tension très forte entre l'Inde et le Pakistan.
Une situation politique explosive dans le sous-continent après une attaque contre des touristes dans le Cachemire indien avec au moins 28 morts. C'est l'attentat contre des civils le plus meurtrier en Inde depuis 2008. Un défi pour Narendra Modi qui avait promis le retour à la normale dans la région. Le Premier ministre accuse le Pakistan de complicité avec les terroristes comme Bastin à Bangalore.
En 2019, Narendra Modi avait bombardé le Pakistan après une attaque contre des soldats indiens dans le Cachemire. C'est à nouveau vers le voisin musulman que les coups partent. Un traité fluvial entre les deux pays a été suspendu, la frontière principale a été fermée et plusieurs diplomates pakistanais ont été renvoyés. S'adressant à la foule dans le Bihar, Narendra Modi s'est voulu grave et a utilisé l'anglais pour s'adresser au monde.
Les terroristes ont tué des innocents, ils ont ciblé les plus pauvres. Il y a des centaines de milliers de nos compatriotes en souffrance. Je le dis au monde entier, l'Inde identifiera, traquera et punira tous les terroristes et leurs complices. Nous les pourchasserons jusqu'aux confins de la terre.
Deux terroristes ont déjà été tués en Inde, mais jusqu'où se poursuivra cette traque? Les services secrets indiens affirment que le groupe qui a frappé le Cachemire est hébergé au Pakistan. Islamabad dénonce des accusations sans fondement. En attendant, la tension monte en Inde. De nombreux étudiants originaires du Cachemire indien ont été victimes de harcèlement et d'intimidation de la part des autorités après l'attentat. Plusieurs groupes extrémistes hindous ont aussi émis des menaces de mort à l'égard des musulmans indiens. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
Et le Pakistan, en réponse, ferme sa frontière avec l'Inde, lui interdit son espace aérien et interdit le commerce avec New Delhi si le Pakistan considérera toute tentative de détournement de l'eau du fleuve Indus de l'Inde comme un acte de guerre.
En Corée du Sud, la malédiction présidentielle se poursuit.
Moon Jae-in était jusqu'ici le seul ancien président à avoir été épargné par les ennuis judiciaires, mais il a été inculpé pour corruption ce jeudi. L'ancien président de centre-gauche est accusé d'avoir facilité l'emploi de son gendre. Un énième épisode dans le chaos politique sud-coréen depuis la déclaration avortée de loi martiale du président Yoon. Nicolas Roca.
C'était une figure de probité, le seul ancien chef d'État sud-coréen encore en vie à avoir évité les ennuis avec la justice. Finalement, Moon Jae-in devra répondre à des accusations de corruption. Le parquet estime que le gendre du président de centre-gauche a obtenu son poste illégalement. Il a été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easter Jet, entreprise gérée par un ancien député du Parti démocrate, la formation politique de Moon Jae-in. Selon les procureurs, les 132 000 euros de salaire perçus seraient en réalité des pots de vin à destination de l'ex-président. Cela a permis à sa fille et à son gendre de vivre sans le soutien financier de ses parents. Les accusations de corruption sont prises très au sérieux en Corée du Sud et plusieurs chefs d'État en ont fait les frais, à l'image d'Im Yong-bak et de Park Geun-hye, deux présidents conservateurs qui ont passé plusieurs années derrière les barreaux pour ce motif. Yoon Suk-yeol, l'ancien président accusé d'insurrection pour avoir proclamé la loi martiale en décembre, est lui jugé en ce moment et risque la prison à vie.
L'une des pires attaques la nuit dernière contre la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre.
8 personnes tuées, plus de 70 blessés par des missiles russes à Kiev. C'est un bilan provisoire qui n'a cessé de s'alourdir depuis cette nuit. Parmi les blessés, 42 personnes sont hospitalisées, dont 6 enfants. La réaction ukrainienne est venue du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Selon lui, cette frappe massive de missiles russes prouve que Moscou ne souhaite pas mettre un terme à son invasion de l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine montre par ses actes qu'il ne respecte aucun effort de paix et ne souhaite que continuer la guerre, dit-il. Cette nuit, Donald Trump, lui, s'en est pris violemment à Volodymyr Zelensky. Il l'accuse de tenir des propos incendiaires sur la Crimée annexée, la question justement de la Crimée que Donald Trump estime perdue pour l'Ukraine. Pierre-Olivier, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce territoire stratégique a été annexé par la Russie en 2014.
Oui, une annexion très populaire chez les Russes et Vladimir Poutine décide alors d'en faire la vitrine d'une Russie conquérante. Il faut dire que la Crimée, à peu près grande comme la Belgique, offre au sud et à l'ouest un accès direct à la mer Morte, à la mer Noire, pardon, tout en étant relié au nord à l'Ukraine et à l'est à la Russie. Alors cette position, en fait, un territoire convoité par les deux pays, d'autant qu'avec l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou annexe aussi un vaste espace maritime riche en hydrocarbures et récupère le port en eau profonde de Sébastopol qui, lui, permet de prendre le contrôle d'une grande partie de la mer Noire, une porte de sortie aussi pour la marine russe vers la Méditerranée. Avec son climat agréable et ses plages, la Crimée attire également de nombreux touristes, près de 10 millions en 2021, soit 5 fois plus que sa population. Alors pour l'Ukraine, libérer cette péninsule est crucial, symboliquement, car c'est là qu'a commencé l'invasion russe de 2014, et militairement pour bloquer aujourd'hui le ravitaillement des troupes russes du front sud.
Pierre-Olivier du service international de RFI, j'ajoute que Volodymyr Zelensky indique à l'instant que l'Ukraine fera tout ce que ses partenaires exigent, mais ne cédera pas sur l'Ukraine, sur la Crimée.
Et nous reviendrons justement sur la marge de manœuvre du président ukrainien dans ces négociations avec notre invité dans une dizaine de minutes.
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Pékin rejette fermement l'existence de négociations en cours avec Washington. Toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret. Voilà la déclaration d'un porte-parole du gouvernement chinois. Cela fait suite aux propos du président américain Donald Trump ayant suggéré l'éventualité d'un accord entre les deux puissances engagées dans un bras de fer commercial. Et il n'y a pas que la guerre économique entre les deux pays, il y a aussi une guerre des étoiles entre Washington et Pékin. La Chine vient d'envoyer 3 astronautes vers sa station spatiale Tiangong où ils resteront 6 mois. Pékin qui a injecté des milliards d'euros dans ce programme spatial afin de rattraper les États-Unis et la Russie. L'objectif, envoyer un équipage chinois sur la Lune d'ici à 2030, puis y construire une base lunaire, un projet également visé par les États-Unis. Au moins 25 personnes, dont 6 membres d'une même famille, tuées dans les nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza ce matin. Annonce de défense de la défense civile palestinienne. L'armée israélienne confirme dans un communiqué avoir effectué une frappe dans la région de Jabalia. Mais la frappe ciblait des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du djihad islamique. Et comme tous les ans, Israël commémore la Shoah. Le pays s'est figé ce matin au souvenir des 6 millions de juifs tués par les nazis en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un moment d'émotion intense dans ce pays qui traverse l'une des périodes les plus tendues de son histoire. Amira Swilem nous raconte ce qu'elle a vu ce matin à Jérusalem.
Quelques instants avant 10 heures, une gravité s'empare des rues de Jérusalem. Puis soudain, les sirènes retentissent dans tout le pays. Tous les passants se fichent sur place. Barbe longue, kippa sur la tête et sourire malgré tout, Yisrael Campbell, comédien et guide au mémorial de la Shoah de Yad Vashem, semble absorbé par ses pensées.
C'est un moment puissant pour l'État d'Israël. Vous savez, à Yad Vashem, on dit que l'État d'Israël existe en dépit de l'Holocauste et non pas du fait de l'Holocauste. Malgré le fait que le tiers de la population juive mondiale et les 2/3 des juifs d'Europe aient été tués. Malgré cela, on a été en mesure de créer un État et ça, c'est beau.
C'est quoi ce nombre-là sur votre veste ?
566, c'est le nombre de jours passés en enfer par les otages.
Des otages israéliens dans tous les esprits ici. Sur un banc, deux jeunes femmes discutent.
Je m'appelle Shaked, j'ai 26 ans. On a des frères et des sœurs, 59 personnes qui subissent un génocide tous les jours à Gaza. Et le monde ferme les yeux. C'est ce qui me relie à ce jour et j'espère que le monde va se réveiller et ne pas permettre à ce génocide de perdurer.
Plusieurs ONG comme Amnesty International accusent Israël de commettre à son tour un génocide à Gaza. Les Palestiniens d'Israël, croisés ce matin, ont préféré ne pas s'exprimer sur le sens de cette journée du souvenir. Amira Sulem, Jérusalem, RFI.
À Rome, l'afflux des fidèles se poursuit devant la dépouille du pape François. Plus de 60 000 personnes ont défilé depuis hier devant le cercueil, exposé dans la basilique Saint-Pierre. Et ce sont des dizaines de milliers d'autres qui sont attendus ce jeudi. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Rome, Jade El Khoury et Daniel Valo.
Je m'appelle Monica, j'habite ici à Rome depuis quelques années.
Et là, vous êtes là depuis quelle heure ?
Je suis depuis 5 heures. Une longue attente, mais avec beaucoup de remerciements pour ce que ce pape a fait pour l'Église.
Dans la foule, des catholiques pratiquants, mais aussi de simples touristes comme cette parisienne que nous rencontrons à la sortie de la basilique.
Il y a un chemin qui est délimité, ils font des barrages pour que les gens, parce que les gens courent, sinon les gens poussent. Donc ils font des barrages et tranquillement on accède au cercueil.
À l'intérieur, il faut aller vite pour se recueillir devant le corps du pape. Melvin est un catholique indien de l'état du Kerala.
Il y avait une barrière, mais on pouvait le voir, on n'était pas loin. Par contre, on ne pouvait pas rester longtemps, peut-être 2 ou 3 secondes.
Les religieux ont eu le droit de rester un peu plus longtemps, quelques minutes devant le cercueil. Sœur Caroline est philippine, elle enseigne la théologie à Rome et ne cache pas son émotion après avoir vu le corps du pape.
C'est tellement triste. C'est comme si nous étions devenus des orphelins, parce que c'était notre père à tous.
Sœur Caroline a prié pour le repos du souverain pontife, mais aussi pour le prochain pape qu'elle espère, nous dit-elle, aussi bon et généreux que le pape François. Jade El Khoury, Daniel Valo, Rome, RFI.
Et les funérailles de François se dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre, où devraient converger au moins 200 000 fidèles et 170 délégations étrangères.
Emmanuel Macron repart cet après-midi de Madagascar. C'est la dernière étape de sa tournée dans la région.
Oui, le chef de l'État a participé au sommet de la Commission de l'océan Indien organisé à Tananarive, qui était l'objectif diplomatique de son voyage. On suit Valérie Gas qui l'accompagnait.
Emmanuel Macron a redit devant les dirigeants de la Commission de l'océan Indien sa principale attente.
Nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart d'un certain nombre de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour avancer de manière pragmatique.
Un message auquel le dirigeant des Comores a répondu immédiatement en affirmant que Mayotte était comorienne, comme une fin de non-recevoir, à la demande du chef de l'État qui avait emmené avec lui des élus maorais pour tenter de montrer sa détermination et de lier les enjeux nationaux et internationaux. Car à Madagascar, Emmanuel Macron était en offensive diplomatique. L'océan Indien est un espace de solidarité sur lequel compte le président français.
L'état du monde nous impose encore davantage de nous unir autour de cette culture et d'en faire le carburant de notre méthode multilatérale.
Dans un monde où les alliances sont en train de se réorganiser, Emmanuel Macron est à la recherche de nouveaux partenaires pour soutenir ses initiatives et notamment le sommet sur les océans qu'il va réunir à Nice en juin.
J'encourage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à ratifier ce texte majeur, traité pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine.
Un appel aux dirigeants de l'océan Indien à créer une communauté de solidarité qui se heurte encore à l'obstacle des intérêts particuliers. Valérie Gas, Tananarive, RFI.
Quand on aime, on ne compte pas sur le dicton. C'est peut-être ce que se disent les fans d'Oasis pour se consoler. Les frères Gallagher avaient annoncé fin août dernier reformer leur groupe emblématique pour une série de concerts au Royaume-Uni et en Irlande en 2025, 15 ans après leur séparation. L'engouement était grand, mais des milliers de femmes, de fans y ont laissé beaucoup d'argent. Sophie Torlotta.
2 millions de livres, soit 2 300 000 euros, c'est le montant estimé par la banque Lloyds des escroqueries dont ont été victimes quelques 5 000 fans d'Oasis lors de la vente des billets de la tournée exceptionnelle. Fin août dernier, lors de l'annonce de reformation du groupe, tous les billets pour les concerts de Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin se sont envolés en quelques heures. Les acheteurs, confrontés à des pannes sur des plateformes saturées ou à des tarifs prohibitifs, n'ont pas manqué d'exprimer leur colère. Beaucoup se sont alors rabattus sur des des annonces, finalement fallacieuses, mises en ligne sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Outre ces arnaques, l'autorité britannique de la concurrence s'intéresse à la pratique de la tarification dynamique, qui consiste à ajuster en temps réel le prix de vente à la demande des consommateurs. Certains billets pour Oasis, affichés initialement à environ 150 livres, ont finalement été proposés à plus de 350 livres.
Le tube planétaire Wonderwall d'Oasis, premier concert donc le 5 juillet à Cardiff, au Pays de Galles. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
Merci Olivier Sherman. Tube planétaire, mais on peut le dire, Thomas Saint-Léger qui est à côté de moi et moi, on trouve que c'est pas la meilleure chanson d'Oasis. Bonjour Thomas.
Bonjour Anne.
Vous êtes là pour nous parler de sport et de football d'abord. Le champagne reste au frais pour l'instant, mais Liverpool est un peu plus proche d'un 20e titre de champion d'Angleterre.
Ce sera peut-être pour dimanche et la réception de Tottenham. Il ne manque qu'un point aux Reds après le match nul de partout, concédé par leur dauphin Arsenal face à Crystal Palace hier soir. Les Gunners, qui avaient peut-être déjà la tête à leur demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG, manchent aller. Dans 5 jours déjà, est-ce le même syndrome? En tout cas, les joueurs de l'Inter Milan concernés eux aussi par la Ligue des Champions, ce sera face à Barcelone. Les joueurs de l'Inter ont complètement raté leur sortie en Coupe d'Italie, défaite 3-0 dans le derby face au Milan AC, le Milan AC qui se qualifie donc pour la finale.
En Espagne, le Real Madrid reste dans les rétros du FC Barcelone.
À 4 points toujours après une victoire 1-0 hier sur le terrain de Getafe, but d'Arda Güler. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est la blessure d'Eduardo Camavinga, rupture musculaire à une cuisse et probable fin de saison pour le milieu de terrain français.
Toujours à Madrid, on ne verra pas Carlos Alcaraz cette année. Le numéro 3 mondial de tennis est blessé lui aussi et forfait pour le Masters 1000 de la capitale espagnole.
Annonce faite ce matin à la veille de son entrée en lice prévue demain. Alcaraz souffre de douleurs musculaires aux deux jambes, trop compliqué pour jouer, surtout avec le risque d'aggraver ses blessures et de devoir renoncer aux prochains objectifs. On l'écoute au micro de Pierre Chaperon.
J'ai fait tout ce qui était possible, tout ce qui était en mon pouvoir pour être prêt. Mais les choses ne se sont pas beaucoup améliorées. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut écouter son corps. Même si j'attends Madrid toute l'année, j'adore y jouer, mais ça ne sera pas possible cette année. Nous avons déjà pris la décision de ne pas prendre de risques. Si je joue, j'aggrave mon cas. Là, je vais essayer de me reposer, de récupérer et d'être de retour sur les courts dès que possible. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que je serai à Roland-Garros, peut-être même à Rome. C'est ça l'objectif.
Et le Masters 1000 de Rome, ce sera à partir du 7 mai. Roland Garros, le grand chelem sur terre battue à Paris le 25 mai, dans un mois. Donc, pour revenir rapidement sur les cours de Madrid, parce qu'on joue quand même, hein. Le français Alexandre Muller s'est qualifié ce matin pour le deuxième tour après l'abandon du belge David Goffin.
Et puis en basket, Monaco bien lancé dans son quart de finale de l'Euroleague.
Les Monégasques ont remporté le premier match de leur série face à Barcelone. Victoire nette 97-80 aujourd'hui. L'autre club français encore en course, Paris, joue sa deuxième manche sur le parquet de Fenerbahçe. Deux jours après une courte défaite de 5 points, l'entraîneur brésilien du club de la capitale, Thiago Splitter, attend mieux ce soir.
Je ne vais pas vous dire ce que je prévois, mais une chose est certaine, il faudra être meilleur au rebond. Nous n'avons pas d'excuses, pas même celle de la taille. Sur certains matchs, nous avons été bons au rebond, même en étant l'équipe la plus petite sur le terrain. Donc il faut répéter ça. Et lors du premier match, nous n'étions pas au rendez-vous au rebond.
Thiago Splitter, l'entraîneur du Paris Basket, pour se qualifier. Anne, c'est au meilleur des 5 matchs, donc il faut gagner 3 fois. Bravo.
C'est bon, ça passe. Merci Thomas de Saint-Léger.
RFI Midi, Anne Cantner.
Nous allons revenir maintenant sur ce plan de l'administration Trump pour l'avenir de l'Ukraine. Il prévoit notamment que le pays renonce à ses prétentions sur la Crimée, annexée en 2014 par la Russie. Et cela sans répondre à l'une des principales demandes de Kiev, à savoir la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Inacceptable pour Volodymyr Zelensky, on l'a dit tout à l'heure dans le journal. Et on va essayer de comprendre ce qui se joue avec notre invité. Bonjour Ulrich Bouna.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique, chercheur associé chez Open Diplomatie et vous êtes l'auteur du livre « La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective ?» qui a été publié aux éditions du Cygne. Alors, la position officielle du président ukrainien, on la connaît, il l'a déjà donnée à plusieurs reprises, elle ne bouge pas. Mais dans le fond, est-ce qu'il aura vraiment le choix ?
Oui, non, parce que effectivement, sur le principe, les Ukrainiens effectivement ne renonceront jamais de jurer à leur territoire. Il faut savoir que quand bien même, en fait, Volodymyr Zelensky accepterait de signer cet accord, il faudrait que cet accord passe à la Rada, pas sûr qu'il serait ensuite homologué par la Rada, par le Parlement ukrainien. Mais donc effectivement, d'un côté, il ne peut pas vraiment se permettre de dire complètement non à Washington et de risquer de on va dire briser l'ensemble des ponts avec Washington, qui reste quand même un partenaire incontournable, notamment pour la fourniture de certains équipements, notamment les défenses antiaériennes. On a pu voir cette nuit que c'était extrêmement important. Mais d'un autre côté, effectivement, dire oui sans lutter à ce plan qui est très défavorable à Kiev, ce serait probablement du suicide politique. Et ça passerait pas auprès de la population. Donc il est un petit peu pris entre deux feux. Et on voit bien que s'il a dit non à certains points, son premier ministre est aujourd'hui à Washington pour essayer de négocier un accord sur les minerais. Donc j'ai envie de dire qu'il répond ni oui ni non.
Oui, d'ailleurs, il a dit aussi tout à l'heure que son pays ferait tout ce que ses partenaires lui demandent, mais pas sur la Crimée. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Est-ce que ça concerne cet accord sur les minerais que vous mentionniez ou est-ce qu'il pourrait accepter de lâcher certains territoires, notamment dans l'Est, le Donbass ?
Oui, je pense que pour le coup, et en fait si on remonte un peu le fil du temps, il y a eu un véritable changement de position de Volodymyr Zelensky par rapport à la récupération des territoires. Je pense qu'on est passé d'une récupération manu militari à une récupération éventuellement lors de négociations, voire même, on va dire, à un simple constat de fait que les Ukrainiens désormais ne sont pas capables de récupérer ces territoires et qu'ils les récupéreront peut-être un jour, peut-être via des négociations. Mais je pense que c'est désormais quelque chose qui est relativement inscrit dans l'état d'esprit des Ukrainiens. C'est juste qu'ils ne peuvent pas se permettre, si vous voulez, de l'accepter officiellement et de signer un document dans lequel il renoncerait à l'ensemble de ces territoires qui font partie quand même de leur frontière nationale. Et donc, je pense que ce que voulait dire Volodymyr Zelensky par là, c'est qu'effectivement, ils sont prêts à faire pas mal de concessions pour rester, on va dire, un petit peu dans les bonnes grâces de Donald Trump, mais qu'effectivement, faut pas non plus aller trop loin et reconnaître, on va dire, déjurer que la Russie possède du coup la Crimée plus les quatre autres oblasts. Là, effectivement, ce sera aller trop loin.
C'est une capitulation, en fait. Ces territoires, ces fameux oblasts, notamment dans l'Est, hein, la région du Donbass, où en fait il y a des affrontements et des combats depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Est-ce que ça, ce renoncement, ça serait accepté par la population ? Ça lui coûterait pas politiquement à Volodymyr Zelensky ?
Ça lui coûterait forcément politiquement, mais ce serait, je pense, moins. Ils sont quand même, c'est des territoires un peu moins symboliques que la Crimée. Et puis c'est surtout qu'en vrai, notamment les territoires qui sont contrôlés depuis 2014-2015 par les séparatistes soutenus et armés par les Russes. Pour le coup, ces territoires-là, avant même 2022, il y avait une vraie discussion au sein de la société ukrainienne pour savoir quoi faire. Récupérer ces territoires, même les armes à la main ou même par les négociations, ça supposerait de récupérer des territoires sur lesquels des personnes ont eu le cerveau complètement retourné par la propagande depuis 10 ans, complètement dévasté économiquement. Donc ça coûterait une fortune en fait de récupérer ces territoires pour l'Ukraine, et donc ce serait pas forcément quelque chose de véritablement primordial.
Quand vous nous dites que ça n'a pas la même valeur symbolique que la Crimée, qu'est-ce que ça a de particulier la Crimée ? Est-ce que Volodymyr Zelensky s'y accroche pour une question de principe, de souveraineté territoriale ? Ou bien est-ce qu'il y a des enjeux plus larges qui seraient liés à la position stratégique en fait qu'offre cette région ?
Je pense que c'est un peu tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une symbolique extrêmement forte, c'est là que tout a commencé, donc pour beaucoup d'Ukrainiens c'est là que tout se finira. Il y a effectivement aussi une position stratégique de la Crimée sur la mer Noire, sur la mer d'Azov. Il faut de savoir que sans la Crimée, effectivement, l'Ukraine a renoncé à la mer d'Azov, a renoncé une partie de ses débouchés. Et un dernier point, c'est que les Ukrainiens ont aussi parfaitement conscience que c'est extrêmement symboliquement important pour la Russie aussi, et qu'effectivement, défaire la Russie en Crimée, ce serait défaire la Russie sur l'ensemble du théâtre d'opération, et c'est ça qui scellerait véritablement une victoire ukrainienne.
Donc là aussi, un symbole. Si c'était possible et si effectivement l'Ukraine pouvait garder entre guillemets la Crimée, les enjeux seraient moins importants en termes de réunification avec vraiment des gros guillemets du pays. Il n'y a pas les mêmes enjeux que dans l'Est.
Disons que, en fait, je pense que, stratégiquement et symboliquement, effectivement, les territoires de l'Est sont moins importants, mais pour les deux d'ailleurs, hein. Même pour la Russie, au-delà des discours de propagande, ça n'a pas véritablement d'importance pour la Russie de posséder le Donetsk et Luhansk. Ce qui a véritablement de l'importance pour eux, c'est le corridor territorial entre l'Est de la Russie et la Crimée qui passe par le Donbass. Mais les territoires de l'Est de l'Ukraine, avant même 2014, c'était des territoires économiquement sinistré. Donc pour le coup, effectivement, pour les deux, j'ai envie de dire que le joyau de tous ces territoires, de ces cinq oblasts, c'est la Crimée. Et pour le reste, j'ai envie de dire que tout est négociable. Ils ne sont pas à quelques villages près.
Et ça serait possible pour les autorités ukrainiennes de faire revenir la Crimée? Parce que là aussi, il y a quand même une présence russe depuis 10 ans. Quel est l'état d'esprit de la population sur place? On a une idée?
C'est très compliqué à dire. On est vraiment dans un système dictatorial en Russie et notamment dans les territoires conquis sur l'Ukraine. Donc la population ne peut pas véritablement s'exprimer. Il est certain qu'effectivement la Crimée avant 2014 était un territoire assez partagé. Il y avait déjà eu des colonisations de peuplement historiquement, notamment dans la ville de Sébastopol. Donc il y avait effectivement une partie de la Crimée qui était probablement pro-russe à une certaine époque, sans doute pas la majorité, mais une partie, il faut le reconnaître. Donc ce serait effectivement extrêmement compliqué pour l'Ukraine, et je pense que l'Ukraine ne se projette pas à court terme à récupérer la Crimée. En revanche, reconnaître, c'est surtout ça, reconnaître légalement que la Crimée appartient à la Russie, là c'est véritablement, je pense, quelque chose qui ne passerait pas auprès de l'écrasante majorité de la population ukrainienne.
Je vous remercie Ulrich Bouna d'avoir été en ligne avec nous. Chercheur associé chez Open Diplomatie, je redonne le titre de votre livre, La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective? C'est paru aux éditions du Cygne.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
La saison du cacao a commencé en Côte d'Ivoire. Le pays en est le premier producteur mondial. Le cacao s'exporte massivement et pas toujours de façon légale. Dans l'Ouest, la contrebande est très répandue grâce à la proximité de la Guinée, du Libéria. Et malgré les contrôles, l'agence Reuters estime que 50 000 tonnes de cacao se sont volatilisées durant les derniers mois de 2024, quand le cours était au plus haut sur les marchés financiers. Notre correspondant Benoît Almeras est allé enquêter. Voici un extrait de son grand reportage.
Ce serait l'une des plaques tournantes de la contrebande de cacao. Bienvenue à Danané, son avenue principale est tirée le long de la route A8. 50 km plus loin, il y a la Guinée forestière et Monrovia, la capitale du Libéria voisin, est plus proche que la lointaine Abidjan à plus de 10 heures de route. Dans cette ville frontière, les coopératives de cacao et leurs entrepôts ont pignon sur rue, comme souvent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le véhicule roi, c'est la moto ici. À moins de 500 euros, n'importe qui peut acheter une Raojue ou une Sanya, des modèles chinois souvent importés de Guinée. Des deux roues bon marché, indispensables pour rouler loin du bitume.
Depuis après la guerre, toutes les voies ne sont pas praticables. Voilà, donc on est obligé d'avoir les motos pour essayer de se déplacer. Voilà.
Ça vous permet d'aller jusqu'où en fait avec la moto? Vous allez au Libéria par exemple?
Oui, on va au Libéria jusqu'à la frontière. Souvent même on va jusqu'à dans la capitale pour aller. Oui, oui.
Dans la capitale, à Monrovia?
Oui, à Monrovia, oui.
Ok, c'est pas si loin que ça?
Non, c'est pas si loin. Même aujourd'hui, si vous voulez, on peut aller revenir. Sans problème.
Bon, j'ai pas de visage.
Mais il n'y a pas problème de visa. Oui, mais. Mais avec nous, souvent, il n'y a pas problème de visa. Voilà. Parce que nous sommes les enfants de la frontière. Nous sommes la frontière de Libéria et la Guinée. Voilà.
Il y a beaucoup de gens là comme vous qui font la traversée là comme ça tranquillement?
Oui, oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup.
Ces petites cylindrées, elles sont surtout plus discrètes que les camions. À la sortie de Danané, une petite dizaine de poids lourds sont garés sur le bas-côté, juste au niveau du poste de douane. Depuis plusieurs mois, les contrôles se sont intensifiés sur la 8. Mohamed transporte une cargaison de noix de coco vers la ville guinéenne de Siguiri. Son 10 tonnes est bloqué depuis plusieurs jours.
Il n'a pas encore vérifié d'abord. Moi, je crois qu'il pensait que c'est le cacao qu'il y a dedans.
Il y a des contrôles qui sont plus stricts en ce moment?
Oui, il y a trop de contrôles. Contrôle pour le trafic de cacao pour en vendre en Guinée. Vraiment, nous, on est fatigués comme ça. On n'a pas cacao, rien. On est garé, personne ne venait pour nous demander il y a quel problème. On a appelé Danané, ils ont appelé à Man. Man dit c'est le problème de. C'est Abidjan qui a donné ordre pour garer les camions, tous les camions.
Extrait du grand reportage de Benoît Almeras à écouter ce soir en version longue à 19h40, temps universel, et quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes maintenant pour l'actualité africaine.
RFI à Bamenda, 105.8 FM.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Reportage au Royaume-Uni, où la compagnie Project Europa défend la diversité au théâtre et se bat pour ouvrir les castings à des artistes de tous les horizons. Comédiens et comédiennes du Cameroun, du Zimbabwe, du Maroc montent sur les planches, même au Globe, l'emblématique théâtre de Shakespeare à Londres.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI.